Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, Clara Hart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée au rayonnement international, à la coopération européenne pour Montpellier Métropole. Vous êtes au sein du conseil municipal et vous en êtes la vice-présidente. Alors, c'est une bien lourde tâche quand on voit l'importance qui est prise à la fois par Bruxelles et par l'application des conventions internationales dans lesquelles s'engagent les États. Donc, je suppose que vous travaillez beaucoup.
Effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, en tant que métropole de Montpellier, nous avons un rôle à jouer, aussi bien au niveau de l'Europe, et puis bien évidemment, les échéances qui arrivent dans quelques semaines sont absolument cruciales aujourd'hui pour nous, pour le territoire, et puis plus largement pour la planète. Je pense qu'on ne doit pas perdre de vue l'importance de ces élections européennes pour l'avenir de notre planète, qui est mise à mal actuellement. Et puis, sur le multilatéralisme tout court, nous avons Montpellier et sa métropole a un rôle à jouer. Nous sommes une ville méditerranéenne, résolument méditerranéenne, avec ses forces et ses difficultés. Et on n'oublie pas que nous sommes un hotspot, comme on dit en occitan, un hotspot pour toutes les difficultés liées à ce changement climatique que nous subissons de plein fouet.
Alors, on va y revenir, bien sûr, dans le détail. Mais parlons déjà un petit peu de vous. Moi, je trouve que, vous savez, quand on arrive de loin, comme moi, on trouve plusieurs types d'élus. Il y a ceux qui ont encore des éclats de lumière dans les yeux et qui n'y connaissent pas grand-chose. Et on les excuse parce qu'ils apprennent tous les jours. Il y a ceux qui mettent leur nom au bas d'un parchemin. Ceux-là, on les repère facilement également. Et puis, il y a ceux comme vous qui font un millier de choses dont on parle peu, finalement, par rapport à ce qui est fait. Et quand on parle de vous, on parle souvent d'une femme engagée. Et vous pensez quoi par rapport à ça ?
Ça me fait très plaisir. Très, très plaisir parce que ça a toujours été mon moteur. Je me suis engagée très, très tôt. Hein. Je suis née à Londres et je me suis engagée extrêmement tôt dans la lutte contre toutes les discriminations, mais aussi pour la planète au sein de Greenpeace à l'époque. Donc voilà, tout ça a commencé, je pense, j'avais j'étais une petite adolescente et avec un peu cette envie qu'on peut avoir de changer un peu le monde autour de nous. J'étais très aussi, j'aimerais bien le dire, j'étais très influencée aussi, au moins très inspirée plutôt par Nelson Mandela. Ça a toujours été un exemple en fait de lutte pour le changement. J'ai toujours eu envie d'agir en fait. L'action pour moi a toujours été plein de sens. Et donc, depuis cet âge-là, je n'ai jamais arrêté vraiment à agir. Et la politique est arrivée plus tardivement, hein, après mon parcours de chef d'entreprise et de responsable associatif. Et j'ai toujours voulu, en fait, finalement, porter plus fortement cette envie de changer le monde autour de moi et de le rendre un tout petit peu meilleur.
Alors, j'ai fait un choix. Il est forcément très personnel et il pourrait être remis en question parce que vous avez fait effectivement un millier de choses. Mais vous avez par exemple travaillé au sein du COMEN. Alors, on connaît assez mal le COMEN, qui est un réseau euro-méditerranéen pour les pouvoirs locaux, régionaux, qui s'est composé de gens qui viennent de tous les continents et qui échangent les meilleures pratiques. Alors, Au sein de ce commun, vous avez beaucoup travaillé sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que c'est vraiment, je crois, le cœur de votre activité, ce réseau Euroméditerranée.
Oui, tout à fait. Nous faisons partie de plusieurs réseaux à l'international et particulièrement pour la Méditerranée. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, on partage tant de choses. La proximité géographique, bien évidemment, la culture de la Méditerranée qui s'est empruntée à Montpellier de manière très, très forte et depuis des siècles maintenant. Donc Montpellier a été façonnée par des personnes qui sont venues d'un peu partout dans le monde, mais particulièrement de la Méditerranée. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, avec en plus le travail que nous faisons sur la résilience de la Méditerranée face au changement climatique, nous nous retrouvons de manière extrêmement, presque naturelle, avec nos partenaires autour de la Méditerranée. Et quand nous travaillons ensemble, on travaille sur les valeurs, bien sûr, et cette question de l'égalité femmes-hommes, l'égalité réelle, l'égalité professionnelle, mais aussi l'égalité dans la vie de tous les jours, hein, l'égalité démocratique aussi, ce sont des éléments qui nous unissent en Méditerranée.
Alors, on y reviendra certainement pour d'autres raisons, enfin pour d'autres causes, d'autres questions. Mais j'ai vu sur Internet que si on reprenait aujourd'hui les mesures qui ont été faites par l'ONU sur effectivement la relation entre les hommes et les femmes, on arriverait à une égalité dont vous riez, puisqu'elle serait seulement en 2196. Donc, pour vous, c'est tellement loin. Et pour nous tous, c'est tellement loin. Ça veut dire deux générations de fillettes avant d'y parvenir. Donc, vous pensez qu'on ne va pas assez vite?
On va absolument pas assez vite. C'est étonnant. Et parfois, on a l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière. J'avoue, c'est très frustrant. Mais, dans la vie, l'espoir fait vivre, comme on dit. Et il faut vraiment s'accrocher à de très bons exemples. Et puis, il faut les provoquer. Et il y en a autour. Et ce que nous voyons en Méditerranée aujourd'hui aussi, c'est de plus en plus de femmes mères de grandes villes. Et je pense par exemple à Rabat, je pense à Marrakech et puis bien d'autres villes aussi. Et ça, c'est une excellente chose parce que ça, c'est un symbole pour les jeunes filles autour. Il n'y a pas que la politique dans la vie, nous sommes bien d'accord. Il faut aussi que nous voyons des femmes chefs d'entreprise, scientifiques, ingénieurs. Mais c'est vrai que d'avoir une femme à la tête d'une grande ville est une très bonne manière d'emporter aussi la jeunesse. Et ça, c'était absolument essentiel. C'est le rôle modèle.
Grâce à vous, Montpellier continue à jouer son rôle d'échange avec l'Afrique. Vous l'avez expliqué, c'est un lieu de brassage. Le Sud doit nous apprendre sans doute beaucoup de choses. Et donc, vous avez travaillé sur un événement le 24 mars, sur la diplomatie des villes et les Water Days, début septembre. Donc, finalement, ce travail avec les maires que vous venez d'évoquer, des grandes villes du Sud, indépendamment d'ailleurs de la dimension politique que vous venez également d'évoquer, mais on a aussi des scientifiques. On est dans une période où vous avez parlé d'un hotspot. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un hotspot, mais c'est vrai que la Méditerranée se réchauffe beaucoup plus vite que tous les autres océans. Voilà. Et donc, on va avoir à gérer des événements extrêmes et très certainement des sécheresses, des canicules, etc. Alors, qu'avez-vous appris de ces villes du Sud?
Alors, la question est particulièrement pertinente parce que quand nous nous embarquons dans des projets de coopération aujourd'hui, et un projet de coopération, c'est avant toute autre chose un échange humain entre des personnes. Ça, c'est vraiment la première chose à dire. Quand nous nous engageons auprès de villes au Sud, que ce soit la Méditerranée ou l'Afrique, au-delà, nous travaillons sur des projets très concrets. Et ces projets très concrets, pour nous, sont des projets sur lesquels nous apportons une certaine connaissance, savoir-faire, expertise, mais dans lesquels aussi nous apprenons tant de la ville avec laquelle nous sommes en coopération. Et je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, l'eau se fait de plus en plus rare. En Occitanie, mais on est jumelé avec la ville de Barcelone, qui est en immense difficulté actuellement. C'est vraiment la situation, l'heure est grave pour Barcelone et pour la Catalogne. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des villes au sud qui ont appris depuis des centaines d'années à gérer la pénurie d'eau, à gérer les contraintes.
Et alors, qu'est-ce qu'on apprend ?
Et on apprend à s'en servir de méthodes ancestrales afin de faire irriguer, par exemple, les champs. Et on a vu dans la vallée de l'Arguenne, par exemple, qui est donc une zone dans laquelle nous travaillons actuellement, des systèmes d'irrigation à partir de rivières, de petites rivières, en fait, de rivières mineures, comme on dit, que nous avons la possibilité de créer le même type d'irrigation pour, par exemple, nos vignes.
Oui, mais on avait à cette époque, là-bas, une culture.
Oui.
Et on avait, par exemple, des maîtres des eaux. Donc, il va falloir sans doute réadapter un petit peu ces savoirs du sud au nôtre.
Oui, oui, exactement. Alors, on adapte, on partage. On prend des idées, en fait, et on les met on les teste, en fait. On fait des tests sur notre territoire. Et actuellement, on est en train de travailler sur un projet qui verra le jour prochainement entre Saint-Georges-d'Orque, donc ville vitivinicole par excellence, et le Sénégal pour tester, essayer, planter quelques pieds de vigne et faire vraiment un test in situ, en fait, au Sénégal, autour de, justement, la contrainte hydrique, le stress hydrique et le pied de vigne. Donc, voilà, on a tout un tas de projets que nous partageons. Et nous, de l'autre côté, on va aussi amener des systèmes, par exemple, de recyclage des eaux usées traitées, sur lesquels nous allons travailler avec eux et dans lesquels, de chaque côté, en fait, de la Méditerranée, on est en train de piloter, de tester et expérimenter.
Vous avez sans doute assisté à ce grand débat sur les méga-bassines. Et à mon avis, ce n'est pas fini. Hein, des conflits entre l'agriculture et les habitants urbains.
Absolument.
On va les multiplier. Or, tous les gens du Maghreb savent ce que c'est qu'une retenue culinaire, par exemple.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu des échanges en ce sens ?
Exact.
Et être moins fou que les agriculteurs du Nord qui veulent faire de la technologie à outrance et comparer avec un savoir beaucoup plus sage du Sud.
Exactement.
Enfin, je donne ma position.
Non,
là.
Mais tout est là, tout est là. Et nous y croyons en cet apport, en fait. Et ce qui est très, très riche, c'est que on sait très bien que chez nous, la fuite en avant est une chose réelle et que le changement est difficile hein, quand on est dans un certain état d'esprit, une certaine manière de faire les choses. Mais quand on regarde ce qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée, quand on regarde et quand on mesure en fait la sagesse de ces gestes-là et la manière dans laquelle finalement ça fonctionnait depuis très longtemps et ça continue de fonctionner aujourd'hui, on se dit on aura mieux à faire que d'être un petit peu, peut-être un petit peu moins arrogant aussi. Je pense que ça pourrait nous aider.
Peut-être un peu moins technologique et peut-être un peu
moins
plus culturel.
Tout à fait, tout à fait. Et accepter aussi que les choses changent. Nous savons que l'humain n'aime pas le changement, mais on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Et la résilience viendra de là.
Alors là, vous abordez un sujet qui est super important. Vous travaillez également à échelle mondiale, donc avec l'ONU. Et bon, moi, j'ai vécu des périodes qui étaient assez simples. Finalement, celles où ont été signées les grandes conventions climat ou conventions biodiversité ou sécheresse, c'est-à-dire où on avait un multilatéralisme qui fonctionnait. Aujourd'hui, on est en période de crise géopolitique et on sait que le multilatéralisme onusien on a pris un petit coup. Donc, est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'on va continuer à fonctionner, à votre avis est-ce que vous, comment vous, vous voyez ce fonctionnement mondial sur nos ressources?
Le monde est de plus en plus anxiogène. Hein, les glaciers fondent, les démocraties s'effritent. Et nous avons aujourd'hui une situation géopolitique qui est tout à fait... exceptionnellement inquiétante. Je pense que dans ma vie, je n'ai jamais vécu une période aussi angoissante, réellement.
Et pourtant, il faut qu'on trouve un moyen de travailler sur l'éco-anxiété, parce que je pense que... Oui. Moi, je crois qu'on ne fait pas assez le point sur ce qui a été fait.
Oui, oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Nous devons aussi partager, encore une fois, et c'est peut-être un peu une leitmotiv pour moi, partager ces bonnes pratiques, parce qu'il y en a, et il se passe des choses, et il y a des choses qui marchent très bien que nous sommes en train de faire. Donc ça aussi, il faut le partager, il faut échanger, il faut créer un flux d'informations. Et c'est là où je reviens au multilatéralisme aujourd'hui. Le multilatéralisme, typiquement et traditionnellement, a toujours été vu comme étant étatique. On discute d'État à État, très bien, c'est important, on le voit bien aujourd'hui. On a besoin aussi de ces niveaux-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des projets qui sont menés, qui sont propulsés entre partenaires locaux, donc entre villes, entre territoires, et qui sont exceptionnellement efficaces.
Alors, vous pouvez donner un exemple?
Alors, je donne un exemple très simple. Donc, allez, si je peux me le permettre, deux exemples rapides. La Mauritanie. Donc, la Mauritanie, on travaille avec la deuxième ville de la Mauritanie qui s'appelle Kifa, qui est à 9 heures de route à peu près au milieu du désert de la Mauritanie, donc 9 heures de route de Nouakchott, de la ville capitale. C'est un lieu où le stress hydrique est réel, où il y a très, très peu d'opportunités pour chercher l'eau. En fait, il faut aller chercher dans la nappe phréatique. Et les méthodes, en fait, sont très rudimentaires. Donc, on a des puits, on a aussi la possibilité d'aller chercher avec des camions citernes, c'est tout, et de les distribuer. Donc, on est en train de travailler aujourd'hui sur la captation en ce qu'on appelle les bornes fontaines. Donc, ce sont des zones où on va aller capter l'eau et on va les distribuer aux personnes qui souhaitent s'en fournir. Et nous travaillons aujourd'hui sur cette ville-là pour créer des coopératives de femmes qui vont gérer l'eau à la source, et c'est le cas de le dire.
Et vous arrivez à lutter contre, par exemple, le lobby des grands groupes qui voudraient que l'eau devienne payante?
Absolument, absolument. Et en travaillant avec la municipalité qui, elle, mettra en place les coopératives de femmes, nous luttons contre l'hégémonie de ces grands groupes. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux hein, quand on fait cela. Deuxième exemple, la vallée de l'Arguen. Donc, la vallée de l'Arguen est composée d'à peu près 9 villes autour de la vallée. Et ces 9 petites villes, toutes petites villes, sont venues ensemble et on les a accompagnées sur la création de la toute première entente, donc une sorte d'interco autour de l'eau, avec un système d'eau et d'assainissement qui a été mis en place. Et pour la première fois au Maroc, nous avons créé une intercommunalité autour de la vallée de l'Arguen. Donc ça aussi, en termes de gouvernance, de bonnes pratiques en gouvernance, c'est exceptionnel. Ce projet-là a été, a donné lieu aussi à un projet de tourisme vert, où les femmes, encore elles, gèrent des gîtes, gèrent des petites unités d'accueil, en fait, pour les touristes, et vont, vont pouvoir, en fait, vivre de leur activité touristique. Donc ça aussi, dans le cercle virtuel, ça vient compléter. Et pour boucler la boucle, en quelque sorte, nous avons pu amener des jeunes filles de nos quartiers, donc de la Paillade à Montpellier, donc des jeunes filles qui sont en processus d'insertion professionnelle, qui ont pu aller auprès de ces femmes-là pour mettre en place des systèmes de communication à travers les réseaux sociaux, donc qu'elles maîtrisent très très bien, et donc ont pu former ces femmes-là pour pouvoir mettre en place des petits réseaux autour de leur gîte, de leur restaurant et de l'activité de l'huile de l'argan. Donc c'est le bouclé-bouclé en quelque sorte avec le lien vers notre territoire.
Mais comment vous expliquez par exemple que ce type d'expérience ne fasse pas la une des grands journaux?
C'est toute notre lutte aujourd'hui. C'est montrer que finalement, il se passe de belles choses. Il se passe vraiment des réussites, en
mais
fait.
Mais oui, il y aurait moins d'éco-anxiété.
Il y aurait beaucoup moins d'éco-anxiété.
Si on savait tout ça.
Exactement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans l'époque, dans l'ère des infos en boucle. On peut passer une journée,
c'est
deux journées.
Ça veut dire que, est-ce qu'on peut lutter contre les lobbies?
Est-ce qu'on peut lutter contre ça? J'aimerais penser que oui, parce que je ne suis pas défaitiste, mais j'avoue que parfois, quand je mets ces chaînes en permanence, je me demande réellement où est en train de partir le journalisme, parce que c'est quand même effrayant de pouvoir passer une journée, deux journées, une semaine sur un fait divers, très souvent aussi triste soit-il, je suis très choquée. Et je pense que ces chaînes-là gagneraient en qualité, ça c'est sûr, et c'est peut-être même en nombre de vues, hein, s'ils mettaient en place aussi peut-être à des moments donnés dans la journée, à des moments de grande écoute, la série de bonnes pratiques et de bonne nouvelle.
Hein, il faudrait peut-être qu'elle ne soit plus dirigée.
De la planète.
Il
oui.
faudrait peut-être qu'elle ne soit plus dirigée par Bolloré.
Bon. Peut-être que ça pourrait aller aussi. Je suis
alors,
un peu d'accord.
Donc, on a évoqué, vous avez évoqué effectivement cette chute du multilatéralisme dans le cadre de l'ONU et ce retour finalement à l'action des pouvoirs locaux. Mais enfin, je reste persuadée que le message global local reste absolument indispensable. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, l'expérience locale redevienne aussi une référence globale. Donc, comment est-ce que c'est des bilatéralismes? Comment vous envisagez les choses?
Je pense que le bilatéralisme a tout son intérêt. Je pense que la diplomatie des territoires, comme on dit, ou la diplomatie des villes, a fait ses preuves. Et je voudrais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, Antonio Guterres a invité les villes, les grandes villes, hein, pour le moment, mais en tout cas les villes et leurs maires, autour de la table onusienne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est très en retard sur l'agenda 2030. Les 17 ODD, Objectifs du Développement Durable, ne sont pas du tout en train d'être atteints. Hein? On est très loin de là. Et le secrétaire général a dit très clairement que 75% à peu près de ces ODD ne sont atteignables seulement si les villes s'y mettent. C'est les villes et les territoires s'y mettent.
Montpellier est jumelé avec un tas de villes. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je sais bien c'est très difficile pour, en termes diplomatiques, bien sûr, de faire des choix, mais avec lesquels travaillez-vous le plus peut-être, hein?
Alors, je dirais, on a peut-être deux grands axes qui sont l'Europe. Hein, l'Europe, j'en ai parlé en début de discussion, hein, c'est notre famille. Donc, je pense à l'amitié franco-allemande, je pense à Heidelberg. Heidelberg est notre ville sœur en Allemagne. Nous partageons beaucoup de choses, entre autres les universités, la matière grise, le savoir. Et nous travaillons énormément avec Heidelberg sur tous les sujets. De l'économie, en passant par l'universitaire, les enfants, la jeunesse. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis Barcelone, notre ville jumelle tout près d'ici, très grande ville, mais avec laquelle on a beaucoup de points en commun et avec laquelle nous travaillons sur bien des points. Et après, donc ça c'est l'Europe, et après nous avons l'Afrique. Donc c'est un parti pris, c'est une décision politique que de travailler vraiment pour renforcer les liens entre le continent européen et le continent africain, avec Montpellier comme lieu de dialogue, lieu d'échange, lieu de rencontre, en fait, entre les deux. Et notre biennale Euro-Afrique, qui a eu lieu l'année dernière, qui aura lieu donc en 2025, est un moment fort dans ce calendrier-là. Ce n'est pas le seul moment, mais c'est un moment fort, c'est un moment de rencontre où, en fait, on fait dialoguer les artistes, alors, les universitaires, les chefs d'entreprise.
Tout à l'heure, on parlait de bilatéralisme. Et là, on retrouve, via l'Europe ou via l'Afrique, finalement, la participation d'une ville qui s'appelle Montpellier à la possibilité d'un dialogue qui soit un dialogue global, que ce soit la COP climat, que ce soit la COP biodiversité ou l'année prochaine, la COP océan. Alors, on va bientôt, malheureusement, être obligé de nous quitter. Donc, on a deux échéances qui se profilent et qui sont importantes. Je suppose que vous avez un mot à dire. Il y a les européennes, bien sûr. Et puis, il y a l'année prochaine, cette fameuse convention sur l'océan qui va se dérouler chez nous. Donc, à quoi il faut être attentif, selon vous? Quelles sont les urgences?
Je rajouterai peut-être un point supplémentaire. Ce sont les Jeux Olympiques qui, on est à 100 jours. Et je pense aussi qu'on a la possibilité, à partir de ces Jeux-là, de montrer aussi qu'on est capable de faire des Jeux réellement verts. Et j'espère que ça sera le cas. On fera le bilan après, mais je l'espère très fort. C'est une vraie opportunité.
Alors, il nous reste 2 minutes juste pour parler des Européennes.
Alors, les Européennes sont vraiment certainement les élections les plus importantes du moment. Nous avons tant et tant de sujets, je ne développe pas, mais tant de sujets qui touchent la planète, qui touche le climat, qui touche en fait la résilience hein, en période de changement climatique, qui sont décidées par l'Europe.
Donc pensez-vous le 9 juin. Voilà, pensez-vous qu'on puisse se passer de l'Europe?
C'est impossible et certainement pas pour une personne née à Londres. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois mon pays de naissance souffrir comme pas possible par une décision purement et simplement, au moins une décision, c'est un vote, c'est un référendum, mais basé sur des mensonges, sur des fake news, sur de l'invention pure et sur du populisme à l'état brut. Donc sortez le 9, votez s'il vous plaît, votez pour ces élections et ne votez pas pour les extrémistes.
Merci Claire. De toute façon, on aura l'occasion, je pense, de reparler de l'océan ensemble. Donc à bientôt sur cette antenne.
À bientôt, merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.